Interview.
1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. En compagnie de Jean-Louis Briand aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire de la Fédération départementale de la chasse, de la Drôme, bien sûr. On va donc parler aujourd'hui de chasse, d'autant plus que dans pas longtemps c'est l'ouverture. Et avec ce sujet aussi que vous nous aviez proposé, sur la gestion de la sécurité justement autour de la pratique de la chasse.
Alors tout à fait, la sécurité c'est la priorité des priorités du monde de la chasse en général et de la Fédération de la Drôme en particulier. Malheureusement, comme vous le savez, cette année nous avons eu 2 accidents mortels. Au niveau national, il n'y en a eu que 13, mais bon, c'est 13 de trop. Il faut savoir que c'est toujours un drame des deux côtés des familles, autant pour la famille de la victime que pour la famille du tireur. Nous, dans la Drôme, on a été les mauvais élèves cette année. On en a eu 2.
Dont un ici, dans notre DIWA, c'est ça, hein.
Alors, un à Châtillon en DIWA, effectivement, le 29 octobre, et le deuxième à Taulignan, le 24 décembre.
Quand on parle d'accidents de chasse, c'est les accidents de chasseurs entre chasseurs ou de chasseurs sur, par exemple, des promeneurs, des randonneurs, des vététistes?
Alors à 95%, c'est chasseurs entre chasseurs. Sur les 2 accidents, le premier à Châtillon-Andiwa, c'est entre 2 chasseurs. Et malheureusement, à Taulignan, il s'avère que c'était quelqu'un qui ramassait du houx dans le bois. Et il a été victime, bon, évidemment.
On a mis tout de suite, effectivement, les pieds dans le plat, puisque, l'ultime accident dans la chasse, c'est évidemment que quelqu'un décède. Pourquoi d'abord, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des accidents de chasse, finalement ?
Bon, déjà, on se sert d'armes, ça c'est une arme, ça tue. Hein. Moi j'ai toujours pour habitude de dire qu'une arme, lorsqu'elle est chargée, elle n'est pas dangereuse, c'est celui qui la tient qui est dangereux. C'est pour cette raison que nous faisons des formations en permanence. Depuis 2015, nous faisons des formations de responsables battus. À ce jour, on a passé 1300 personnes qui ont fait la formation, et en 2020, tous les responsables de battue auront dû subir la formation que l'on fait à la Fédération de chasse en compagnie de l'ONCFS, de divers intervenants.
Les responsables battus sont ceux qui, par exemple, dans nos ACCA locales, ont la présidence, par exemple, enfin ceux qui vont du coup orienter un petit peu tous les autres chasseurs.
Le responsable battu n'est pas obligatoirement le président de la CCA, mais le président de la CCA désigne son ou ses responsables battus. Et puis dans les ACCA, mais dans les chasses privées, il y a également quelqu'un qui est désigné pour faire le responsable battu. Cette personne est nominativement désignée sur un cahier de battue. Au départ de la battue, toutes les personnes présentes, tous les chasseurs présents doivent signer le cahier de battue, donc on sait qui est à la battue ce jour-là. Puis, des consignes de sécurité écrites que la fédération a initiées sont données à chaque responsable battu qui doit obligatoirement les lire avant chaque battue. Et quelquefois, quand il y a 2 battues dans la journée, le responsable battu lit à 2 reprises les consignes de sécurité. Nous sommes très stricts sur les battues parce que bon, d'abord c'est un phénomène d'équipe. Une battue se fait très souvent à 10-15 personnes. On occupe un territoire. Chaque chasseur doit savoir parfaitement où se trouvent ses collègues. Et à partir de là, quand il a eu les consignes, quand il sait le gibier chassé ce jour-là, parce que c'est pas forcément le sanglier, ça peut être le cerf, ça peut être le chevreuil, ça peut même être le renard. Donc tout ça, ce sont des battues qui se font en groupe.
Donc si un autre gibier sort et que ce n'était pas le jour de celui-là, on doit le laisser ?
Absolument, il le regarde passer. Ne pas tirer est un acte de chasse, il ne faut jamais l'oublier. On le dit, on le répète et c'est marqué dans les consignes de sécurité.
Donc là, ce qui s'est passé par exemple à Châtillon, finalement c'était quelque chose qui était de poste à poste où il y avait du déplacement. Comment c'est possible entre chasseurs qui s'identifient ?
Alors, pour parler très simplement, aujourd'hui, la fédération, bon, elle réclame depuis le jour de l'accident, elle réclame au parquet les procès-verbaux pour pouvoir éventuellement se constituer partie civile. Mais nous avons eu récemment des informations par l'ONCFS qui était sur les lieux également. Et on peut dire que, bon, par exemple, à Châtillon-en-Diois, ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer parce que la victime s'est déplacée, elle a voulu couper la battue, c'est-à-dire qu'elle a entendu les chiens avec le sanglier qui arrivait vers un point donné qui n'était pas le sien, et elle s'est mise devant un postier qui a tiré en croyant que c'était le sanglier. Mais c'est inadmissible pour la bonne et simple raison qu'on dit et on répète sans arrêt « identifier formellement avant d'appuyer sur la détente ».
Comment se prémunir de ces victimes qui ne sont pas dans la chasse ?
Alors, d'une part, nous avons signé des conventions avec la Fédération départementale de la randonnée pédestre, avec la Fédération des VTTistes, les cyclotouristes et les centres équestres. Nous allons à leurs assemblées générales, ils viennent régulièrement à la Fédération de chasse en échange. Le plus simple, c'est d'avoir déjà, quand on se déplace dans la nature, et en particulier dans les bois, c'est d'être habillé en tenue claire. Et ne pas hésiter à faire du bruit, c'est éventuellement, mais ça c'est pas une obligation, hein, mais simplement être habillé en tenue claire. Et puis à partir de là, nous, on doit signaler nos battues avec des panneaux, ça va devenir obligatoire, ça l'est d'ailleurs depuis le mois d'avril, c'est obligatoire. Donc, il rencontre un panneau, il s'adresse au premier chasseur, dans quel secteur vous êtes. Le chasseur, lui, va communiquer avec ses collègues et puis vous traversez la battue sans aucun problème.
Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir peur des chasseurs ? Je veux dire, le commun. Hein ? Parce qu'il y a quelque chose comme ça. Souvent, les gens ont un peu peur de la police, de la gendarmerie, ne se sentent pas en sécurité, même si on n'a rien fait. Et puis, il y a aussi les chasseurs. Parfois, on se dit, mais enfin, c'est stressant même de traverser une battue. Ça m'est arrivé. Hein. On se dit, d'accord, ils sont prévenus, donc il ne se passe plus rien, c'est vrai. Et puis là...
Vous savez, tout le monde est surpris lorsqu'il entend claquer un coup de feu. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on ne sait pas où vont les projectiles, surtout si on est dans les bois. Bon, et si on ne voit pas le tireur. Mais ceci dit, soyons francs, on est 1 200 000 chasseurs en France, 13 accidents mortels. On parle beaucoup moins des 20 000 accidents de vie courante qui se produisent tous les années. Je veux dire, et on n'en fait pas. Alors, nous avons une arme. Je vous assure qu'on fait passer un message très fort 7-8 fois par an à tous nos chasseurs parce qu'on les réunit régulièrement pour insister sur la sécurité. Pour nous, une bonne année de chasse, ce n'est pas une année avec pléthore de gibier, c'est une année sans accident. Cette année, on a échappé à la règle et dans les deux cas, je pense que la fédération se constituera partie civile contre les tireurs pour la bonne et simple raison qu'on pourrait faire se débarrasser de quelques mauvais chasseurs, hein, et garder les bons, quoi.
Et justement, sur ces mauvais chasseurs, allons-y franchement aussi dans les clichés. Il y a parfois, il est cité des problèmes peut-être liés à l'alcool, évidemment, hein, mais je suis obligé de le faire. Et des conduites aussi de citadins, hein, qui viennent. Nous, on l'entend un petit peu dans nos villages pour tirer, quoi. Enfin, c'est débouché, ils ont envie de faire tomber du gibier beaucoup, avec en plus, contrairement peut-être au chef de battue ou au président d'ACCA, une méconnaissance du terrain, et on viendra tout à l'heure sur la partie biodiversité.
Alors, oui, je voudrais simplement relever, l'alcool, ça a existé, on ne peut pas le nier. Ça peut encore exister quelquefois, mais c'est quand même assez exceptionnel. Pendant la chasse, hein, soyons bien clairs.
Oui, on peut faire un after.
Alors, une fois que la partie de chasse est terminée, il est évident que bon, ben, c'est convivial, on arrose le tableau de chasse, on est entre copains, on boit un coup. Mais ça, c'est un autre problème. Après, ils prennent leur voiture, c'est leur problème. Hein, mais ils ne chassent plus. Je peux vous garantir que pendant la chasse, s'ils sont contrôlés positifs, nous, on les enfoncera, c'est sûr et certain. Il est interdit d'avoir de l'alcool dans le sang pendant une partie de chasse, c'est aussi clair que ça. Vous savez, je ne vais pas dévoiler un secret, mais j'ai 34 ans de gendarmerie derrière moi. Et j'ai toujours fait la chasse, justement, aux alcooliques, qu'ils soient à la chasse ou sur la route.
Et vous avez des moyens de contrôle ?
Ah, tout à fait, les mêmes que sur la route. Donc c'est très simple. Il y a les éthylomètres, il souffle dedans, il est positif, on va vérifier exactement son taux d'alcoolémie, et puis après, ben, il reçoit. Alors là, c'est
qui
évidemment.
Le fait ?
Ben, ça peut être la gendarmerie, et dans, en cas d'accident, de toute façon, systématiquement, il y a une prise de sang défectueuse.
Bien sûr. Et donc, sur l'autre question, sur les viandards potentiel ou plus encore, j'allais dire, sur les citadins qui ont une pratique un petit peu différente, je dirais, une approche différente de la chasse et du territoire.
Alors, déjà,
c'est
on
souvent
a une...
les mêmes d'ailleurs.
Bon, dans tous les cas, dans la Drôme, on veut une pression très forte sur le sanglier parce que l'année dernière, il s'est encore prélevé 20 000 sangliers. On paye les dégâts. C'est nous, les chasseurs, qui payons les dégâts aux agriculteurs. Et il faut qu'on fasse baisser cette population de sangliers à 12 000. Ça, ils le savent tous. Donc, on les incite à chasser le sanglier. Après, effectivement, mais je crois que vous mélangez un petit peu les chasses en Sologne où les gens sont fortunés, payent très cher, veulent du tableau. Mais nous, dans la Drôme, c'est une chasse populaire qui est sympathique, qui est comme elle est. Mais de toute façon, mis à part le sanglier, peu importe le tableau.
Non, mais je fais exprès d'enfoncer des portes ouvertes peut-être. Hein. Sur cette question de la biodiversité, vous avez obtenu notamment enfin, la Fédération de la Drôme et la Fédération régionale par une décision du Conseil régional, une nouvelle enveloppe concernant cette gestion de la biodiversité. Comment ça se traduit dans vos actions ?
Eh bien, c'est très simple. Déjà, pour la sécurité, nous bénéficions de subventions sur certaines choses. Par exemple, grâce à la région politique, Auvergne-Rhône-Alpes, je dis bien politique parce qu'il y a la même région, mais synergétique. Donc, je dis bien politique. 1350 miradors ont été subventionnés. Ça, le mirador, c'est très intéressant dans des zones de plaine parce que ça permet aux tireurs d'être surélevés et d'avoir un tir fichant. Et dans tous les cas, il faut avoir un tir fichant parce qu'il ne faut pas que la balle parte loin. Il faut qu'elle rentre dans le sol si on manque l'animal.
Voilà, fichant, c'est vraiment pour éviter donc, les tirs droits. Voilà. Il y a aussi d'autres règles, hein, comme ça, on ne peut pas tirer en direction d'une route, on ne peut pas tirer
Alors,
en direction d'un
Alors, il est formellement interdit de chasser sur tous les chemins goudronnés. Donc, route, bien entendu, hein, sur les voies ferrées, sur... Enfin, bon, c'est formellement interdit, mais tout ça, on a demandé au préfet de prendre un arrêté là-dessus. On a notre Bible qui s'appelle le schéma départemental de gestion cynégétique. C'est un livre qui fait une dizaine de pages, et tout est validé par le préfet, tout simplement à la demande de la fédération, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de problème, à commencer avec les usagers de la nature, et puis des problèmes d'excès sur la chasse, quoi.
Alors donc, je reviens sur ma question de la gestion de la biodiversité. Alors, on parlait tout à l'heure de prélèvement hein, sur ces sangliers dont on connaît effectivement ou les dégâts ou en tout cas la présence hein, sur la route, par exemple. Moi, j'en ai tapé un il n'y a pas très longtemps avec ma voiture. Ça fait toujours plaisir. Cette espèce-là... Pourquoi est-elle si expansive ? Comment ça se gère ? Et puis parlons un peu des autres espèces.
Le sanglier, c'est très simple. Le sanglier, à partir du moment où la lait trouve à manger suffisamment, elle se reproduit. Et elle se reproduit en quantité. Il y a un deuxième phénomène, c'est le réchauffement climatique. Pendant les trois premières semaines de naissance du marcassin, s'il fait pas froid, le marcassin résiste. Ça fait plusieurs hivers où on n'a pas de gel. Résultat, toutes les portées arrivent à terme. Bon. Et le sanglier n'a pas de prédateur, mis à part l'homme. Hein, on nous laisse
les loups ne le mangent pas ?
C'est epsilon à ce que le loup mange. Très peu. Allez toucher un marcassin et s'il gueule, vous allez voir, vous pouvez partir en courant. Hein. Surtout, quand vous voyez des marcassins, surtout n'allez pas les toucher. Ouais. Parce qu'il va se mettre à crier, la mère arrive, elle est folle et elle va vous charger. Donc le loup, il n'est pas fou. Il a d'autres gibiers à manger, hein, en particulier le cerf, le chevreuil. Hein, et bien là, il se sert. Hein. Et le mouflon qui l'a pratiquement fait disparaître de la Drôme.
Donc ce sanglier voilà, se reproduit trop. Il faut donc le réguler. Sur les autres espèces, là vous parliez justement du cerf, etc. Elles sont du coup plus chassées aujourd'hui parce que prélevées par le loup, par exemple.
Alors,
moins chassées.
D'abord, on commence par faire des comptages. Et puis nos chasseurs, ce sont, pour ici dans la Drôme, ce sont des locaux. Ils savent parfaitement ce qu'ils visent sur leur territoire. Ça, c'est la force de frappe du monde de la chasse drômois. On fait des comptages 4 fois par an. À partir de ces comptages, on sait à peu près la population qu'il y a, parce qu'on ne peut pas le savoir à un animal près, mais on sait à peu près la population qu'il y a. On a obligé les ICE, hein, les indices cynégétiques d'écologie, c'est-à-dire que lorsque un cervidé est prélevé, que ce soit un cerf, un chamois, un chevreuil, il est pesé, il est sexé, on mesure la patte, et en fonction de ces critères, on se rend compte si cet animal se porte bien ou non. Bon, tous ces critères sont centralisés à la FEDE, qui sont analysés, hein. Et en fonction de tout ça, on estime que dans tel secteur, parce que chaque secteur est différent, dans tel secteur, on peut prélever tant de chamois, tant de chevreuils, tant de cerfs. Et je peux vous dire que depuis 15 ans, la population ne fait qu'augmenter, parce qu'on n'est pas là pour scier la branche sur laquelle on est assis. Hein. Donc ça se passe très bien.
Notamment sur la question de l'avancée de la forêt dans le territoire drômois. Hein. Voilà, ça joue aussi.
Mais là, vous m'amenez sur le loup, là. Hein. Pourquoi la forêt avance un petit peu? Parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et deuxièmement, tout simplement, parce que les éleveurs de moutons disparaissent les uns après les autres, parce qu'ils en ont ras-le-bol des attaques du loup. Et lorsque la forêt avance, avant que ce soit de la forêt, c'est de la broussaille. Et le problème de l'apparition du loup, c'est qu'il y a plein d'endroits qui se sont embroussaillés. La biodiversité diminue, parce que vous avez les insectes, comme les abeilles et tout ça, qui ont besoin de fleurs, de prairies et de fleurs, vont ailleurs. Vous avez les petits oiseaux, c'est pareil, le lièvre, tout ça, tous ces animaux vont ailleurs. Le tétralyre, par exemple, aussi, puisque nous, on fait des ouvertures de milieu pour que le tétralyre se maintienne. Et c'est vrai qu'il faut le dire tout simplement, les moutons, ce sont les tondeuses à gazon de la nature. Hein. Et lorsqu'il y a moins de moutons, ou alors des très gros troupeaux qui, par contre, on a l'effet inverse, ils rassent tout, mais à des points très précis, ça ne suffit pas. Avant, tout le monde avait son petit troupeau et ça se passait très bien.
Ce n'était pas particulièrement pour venir sur le loup, mais alors puisqu'on y est, allons-y encore un tout petit peu. Voilà, j'ai un responsable quand même de la fédération de chasse. Puisque vous parliez de comptage, vous pouvez compter, par exemple, le nombre d'animaux plus ou moins prélevés par le loup et voir qu'il est effectivement bien présent sur notre territoire.
Alors, de toute façon, il n'y a rien à cacher. Hein. Je veux dire, le loup, d'abord, est un animal protégé. Et on est pas, le monde de la chasse n'est pas contre le loup, et ça, on tient à le préciser. Hein. Mais jusqu'à un certain point... Aujourd'hui, on se rend compte, de par les attaques sur les troupeaux et de par les cadavres d'animaux qu'on découvre et les photos que nos adhérents font toute l'année, parce qu'on leur demande régulièrement, quand ils envoient un, de le prendre en photo, voire plusieurs. Très récemment, à Sous, il y en avait 5 ensemble. Hein, et c'est la semaine dernière, c'est pas vieux. Hein. Donc, tous ces témoignages photographiques, parce que bon, le verbal, après, on a toujours un petit doute sur la véracité des choses. Mais photographiques, tout ça est de nouveau centralisé par une technicienne qui est ingénieure, et on le transmet à la préfecture. Donc on sait que le loup est omniprésent sur le département, et qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup trop dans le département.
Voilà, alors vous disiez n'être ni contre le loup, ni d'ailleurs contre aucune espèce. Il n'empêche que toutes pourraient être chassées. Et sur le loup, alors donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire selon vous?
Mais tout simplement, je pense que le ministre d'écologie n'a pas pris la température correctement dans certaines zones. Et il faut qu'il ouvre un peu plus et puis qu'il donne un peu plus de liberté aux bergers, déjà pour commencer. Hein. Et puis à nous, les chasseurs, bon, mais ça, on ne peut intervenir que sur un arrêté préfectoral. Donc tant qu'on n'a pas l'arrêté dans les mains, on ne fera rien.
Cette question de la gestion de la biodiversité par la chasse, c'est évidemment ce qui crée hein, le conflit en fait entre écologistes et fédération de chasse. Vous avez cité le ministre, il a démissionné, il a même cité un de vos représentants. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
J'ai rien à dire, c'est son problème.
Bon, mais c'est quand même assez symptomatique de cette question-là. Est-ce que vraiment les chasseurs sont des écologistes et, ou en tout cas peuvent se défendre comme étant garants de cette protection de la nature ?
Mais déjà, sachez que la Fédération est agréée Association de la protection de l'environnement depuis 2014. Ça a été un énorme dossier. Il a fallu démontrer qu'effectivement, nous faisions partie des écologistes. Nous ne sommes pas les seuls. On n'a jamais prétendu être les seuls, mais nous en faisons partie et personne ne peut le nier. Pour le travail qu'on fait, par exemple, nous avons mis 60 000 euros sur la table au monde agricole pour semer des graines dans les jachères ou dans les endroits labourés pour éviter que les terres restent nues tout l'hiver. Donc l'obligation, c'est là on sème au 1er septembre, on ne lève pas cette récolte, entre guillemets, avant le 1er février. Hein. Et ça profite à la biodiversité et en même temps, ça leur fait un engrais vert. On appelle ça les cipans biodiversité. On plante régulièrement des haies à droite à gauche dans la plaine, puisque c'est surtout la plaine qui nous intéresse pour la bonne et simple raison qu'entre le remembrement, le machinisme et tout ça, eh bien, il y a de moins en moins de haies, donc on en replante. Et je vous ferai remarquer que très récemment, il y a une étude du Muséum d'histoire naturelle qui a bien dit que tous les petits oiseaux disparaissaient, mais ça n'avait rien à voir avec le monde de la chasse, pour la bonne et simple raison que c'est tous des animaux protégés. Alors, arrêtons de nous tirer dessus à boulet rouge sur ce sujet, parce que et nos détracteurs le savent pertinemment, mais ça ne les arrange pas.
La question devait être posée, au moins on vous entend encore une fois, et pour revenir sur cette question du réchauffement climatique, il y a quand même un cri d'alarme là, un peu général qui a été lancé. Cette fois, on le sent, c'est concrètement là. Quel serait pour vous le message, justement écologiste, qu'il faut maintenant faire passer ? Qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent là ? D'ailleurs, pour ça que toutes mes questions vont dans ce sens, finalement, je me dis, nous-mêmes, médias, devons à un moment donné tirer cette alarme aussi.
Non, mais effectivement, on doit tous réagir, chacun à notre niveau. Hein. Une multitude de petits graines de sable font une plage. Donc, on a chacun une responsabilité là-dessus. L'écologie, c'est l'œuvre de tout le monde, sans exception. Le réchauffement climatique, c'est une évidence, parce que nous, on voit des espèces d'oiseaux africains qui arrivent chez nous, hein, alors qu'avant, elles n'y étaient pas. Hein.
Pour manger des espèces d'insectes qui viennent d'Asie, d'ailleurs,
il est toujours, par exemple, il y a toujours un déséquilibre lorsqu'une espèce n'est pas autochtone et s'installe. Forcément, c'est au détriment de l'espèce qui vit là depuis des siècles, quoi. Donc, il y a un basculement. Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, le réchauffement climatique, on ne peut pas le nier. Hein. À côté de ça, ben, il faut qu'on soit prudent. On doit laisser une planète propre à nos enfants et petits-enfants et on doit leur laisser suffisamment d'animaux parce qu'il n'y a aucune raison qu'on en fasse disparaître une variété, quelle qu'elle soit la variété. Mais il faut la gérer. Alors, je prends par exemple, je vais enfoncer un peu le clou, on va me tirer dessus, mais ce n'est pas grave. Les rapaces sont protégés depuis 30 ans. Bon, les rapaces, ils ont leur utilité, mais à un moment donné, vu qu'ils sont protégés intégralement, il y en a trop dans la plaine. Et ils posent préjudice à d'autres espèces, puisque bon, il faut bien qu'ils se nourrissent, hein, c'est logique. Hein. Et c'est un peu pour tout. Et c'est là où on souhaiterait quelquefois intervenir sur certains points. Hein.
Il faut un équilibre et sur la partie, j'allais dire, éducation finalement à cet environnement, quel type d'action mettez-vous en place ?
Alors nous, on va dans les écoles, je veux dire, on parle jamais de la chasse quand on va dans les écoles, on parle de la biodiversité drômoise, puisqu'on parle de ce qu'on connaît. Hein. Et toute personne qui a envie de poser des questions peut venir au siège à la Fédé à Cré. On est ouvert à tout le monde, quelle que soit la personne, y compris à nos détracteurs qui refusent depuis 8 ans d'y mettre les pieds. Mais je sais pourquoi, bon, et eux aussi d'ailleurs. Bon, on en est là. Nous voulons être transparents, nous sommes prêts à répondre à tout le monde. Et si quelqu'un, personne coup de fil à la Fédé, il pose des questions qu'il a envie, nos techniciens ont pour obligation de leur répondre.
Quelles sont les pires questions qu'on vous pose ? Comme ça, je ne le fais pas.
On est toujours sur les accidents de chasse. C'est l'inquiétude générale, y compris avec les personnes avec qui on a signé des conventions et qui étaient à notre colloque sur la sécurité jeudi dernier, où ils étaient présents en plus, hein, et où on a réuni 550 personnes, mine de rien. Bon, M. le sous-préfet était particulièrement satisfait de ce colloque, il l'a dit. Je veux dire, il faut qu'on avance. il faut, l'option zéro, est-ce qu'elle peut exister? J'ai un doute, mais il faut qu'on diminue encore, parce qu'on est quand même passé de 40 accidents l'an 2000 à 13 cette année, donc il y a un effort national de fait. Je pense que du jour où on a obligé tous les chasseurs à passer l'examen du permis de chasser en 1976, il y a un examen pratique, il y a un examen théorique, on a formé des gens, et puis il y a une formation continue tout au long de l'année où nos chasseurs sont convoqués à la fédération ou parfois on les centralise dans certains coins reculés et où on leur fait passer des messages très forts.
Ce permis de chasse d'ailleurs qui a été un petit peu réduit, là, il paraît, hein, en termes de prix, comment on l'obtient?
Alors,
on passe quelque chose
D'abord, il y a justement cet examen à passer, voilà, pratique et théorique. C'est un inspecteur de l'ONCFS qui vient de Paris, donc on ne peut pas nous dire qu'on le donne. La preuve, c'est qu'il n'y a que 70% de candidats qui l'obtiennent, mais bon, c'est ainsi. Le fait que le permis ait baissé, bon, ça c'est un acte politique très fort de M. Macron, et on le remercie, parce que ça permettra à des jeunes qui n'ont pas trop de moyens ou à des retraités qui n'en ont plus beaucoup de pouvoir aller à la chasse. Hein. Mais ça n'a rien changé la donne. Hein. Mmh. Simplement, c'est une ouverture supplémentaire. Actuellement, la moyenne d'âge dans la Drôme des chasseurs est de 54 ans, ce qui signifie qu'on a beaucoup de chasseurs de plus de 70 ans. Et on est très inquiet à ce sujet parce que tout le monde sait que lorsqu'on prend un certain âge, quelquefois, soit on ne peut plus y aller, soit on n'est peut-être plus capable non plus de chasser. Mais moi, en tant qu'ancien gendarme, j'ai toujours dit qu'à partir du jour où on a le permis de conduire, tous les 5 ans, on devrait passer une visite médicale. Parce que personne n'est à l'abri d'un accident de la vie courante.
C'était le sens de ma question. Ça se fait lorsqu'on on a un permis de chasse?
Alors,
on va réviser comme ça
Alors, c'est la famille qui dénonce et on fait en sorte que...
Ah. Hein.
Mais légalement, il n'y a que le préfet qui a le droit de retirer le permis de chasser. Hein. Voilà. Mais on fait des demandes directement au préfet pour qu'il envoie la personne passer une visite médicale. Et bien souvent, lorsqu'il y a un retrait du permis de conduire parce que la personne n'est plus apte, et bien il y a un retrait du permis de chasser en même temps, ça va de pair, hein, puisque le permis de chasser est inscrit à la préfecture comme le permis de conduire.
Ah oui, il saute automatiquement. Bon. Au moins, voilà encore quelque chose qu'on apprend. Enfin, vous parliez justement de l'âge moyen aujourd'hui des chasseurs drômois. On parlait tout à l'heure des éleveurs qui, au-delà de la problématique du loup, ont aussi cette problématique de reprise des fermes. Donc, il n'y a pas de reprise non plus chez les chasseurs. La jeunesse s'y intéresse pas.
Alors, quand on parle de reprise, c'est-à-dire que je ne parlerai que du monde de la chasse, mais le monde agricole, c'est pareil, c'était pour faire le parallèle. Il y a une chute identique. À savoir qu'aujourd'hui, il y a un panel de loisirs tel que, et puis on va vers la facilité. Bon, donc, nos jeunes, ils sont plus attirés par des tas de loisirs différents. Avant, le monde de la chasse était constitué à 90% de ruraux et surtout d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a de plus en plus de citadins, parce que les gens en ont marre de vivre dans le béton en ville. Ils ont envie de s'aérer, et pour s'aérer, c'est un bon moyen, la chasse. Et en même temps, ils découvrent des choses, je veux dire, ils voient des animaux. Lorsqu'on est dans la nature, si on ne fait pas de bruit, on est toujours en train d'observer quelque chose. Et ça, c'est passionnant. Et puis bon, c'est une culture, parce que ne croyez pas que lorsqu'on part à la chasse, chaque fois on revient avec quelque chose. Moi, 9 fois sur 10, je suis bredouille. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, j'ai observé des animaux. Et comme on ne peut pas chasser ce qu'on veut comme on veut, bien souvent, on voit une espèce, par exemple, à l'ouverture, le lièvre est fermé. Et bien, on voit passer un lièvre, on le regarde. Mais c'est plaisant quand même de le regarder. C'est pas vrai pour ça. On attendra les dates légales pour pouvoir le tirer.
Vous pourriez prendre un appareil photo à ce moment-là.
Oui, mais fait bon.
Faire des photos de naturalistes.
Vous savez, souvent, pour ne pas dire toujours, le chasseur est accompagné de son chien. Et c'est là le plaisir. De voir travailler un chien ou des chiens, je peux vous assurer que c'est vraiment un bonheur. Alors effectivement, on peut toujours dire, on prend des photos. Moi, ça m'arrive des fois de jumeler pendant un moment quelque chose, hein, et de pas réagir autrement que de jumeler, quoi. Mais je ne suis pas un cas unique. Hein. Je le vois, mes collègues m'en parlent. Hein. Et j'ai des collègues, par contre, maintenant, qui se mettent des caméras sur le, sur la tête, là, et il filme ce qu'il voit. Et après, vous le retrouvez sur YouTube. Tout n'est pas très bon. Nous, de temps en temps, on s'énerve. Mais il y a des choses très intéressantes.
Vous parliez du plaisir, le plaisir de voir travailler ses chiens. On peut l'imaginer, mais faut-il aimer tuer ?
Je pense qu'on ne raisonne pas dans ce sens-là. Moi, ce qu'on aime, par contre, c'est déguster entre amis le produit de notre chasse. Ça, alors là, c'est incontestable.
C'est parce plus que plaisant que d'acheter une pièce.
Mais voilà. Lorsque je suis un bécassier. Lorsque je tire une bécasse, bien souvent, j'ai des remords. Je lui fais toujours un petit bisou, ça va énerver certaines personnes. Je lisse ses plumes, j'ai horreur de mettre un oiseau ébouriffé dans ma poche carnier. Voilà, je la respecte. Et par contre, quand je la déguste avec des amis, ben je fais une deuxième partie de chasse. Mais auparavant, j'ai eu l'énorme plaisir de voir travailler mon chien. Et ça, on ne peut pas le raconter, ça. C'est magnifique, quoi, je veux dire. La complicité entre l'homme et le chien, elle est extraordinaire sur le terrain, puis après, elle est extraordinaire à la maison, parce que le mien, il dort dans le canapé, alors...
Oui, il y a plusieurs types de chasse. Hein. On a parlé en introduction de la battue, c'est la plus classique. On a quand même des chiens. Hein. On peut partir très haut dans la montagne et faire descendre la bête jusqu'à la haie fameuse où les gens vont tirer. Là, vous parlez de la chasse à l'oiseau, c'est beaucoup plus fin, selon vous. Y a-t-il une meilleure chasse qu'une autre ?
Je veux pas mettre en face une chasse ou une autre. Toutes les chasses sont belles. Un gars qui est postier et quand t'as arrivé une belle menée de chiens, mais ça vous donne une adrénaline formidable. C'est d'ailleurs souvent là où le gars est tellement excité d'entendre les chiens arriver, sachant que devant les chiens il y a un animal, peut-être l'animal convoité, autorisé ce jour-là. Bon, eh bien, il y a une partie d'animal. Et puis après, ça passe pas forcément chez vous, parce que la nature est large. L'animal peut très bien passer à une centaine de mètres de vous, et vous entendez la menée qui passe. Mais dans tous les cas, c'est un plaisir pour les gens qui sont à la chasse, en tant que possible, d'entendre les chiens. Et puis, la fierté de celui qui les mène. Mes chiens ont trouvé l'animal qu'on cherchait. Bon, il faut pas le perdre de vue, ça. Et c'est vrai que la complicité chasseur-chien, quelle que soit la race du chien, elle est extraordinaire.
Que font ces chiens le reste quand c'est fermé la chasse ?
Alors pour certains, ils sont au chenil. Pour d'autres, le chien courant en particulier, il y a des parcs d'entraînement, donc sans armes.
Mais ça, il faut les entretenir, quoi.
Il faut les entretenir, ça a un coût. Ah ben, c'est un coût évident. Hein. Et puis on ne lésigne pas. Hein. Parce que si un chien n'est pas en pleine forme et en bonne santé... Mais il va pas travailler sur le terrain. Donc on a intérêt à ce que nos chiens soient en pleine forme et en bonne santé, quoi. Donc on ne lésigne pas ni sur la nourriture, ni sur les soins. Ça a un coût, bah écoutez, on l'assume. Hein, comme d'autres assument d'autres coûts pour certains loisirs, hein, je veux dire.
Tout à fait. Ouais. Oui, une paire de skis, ça coûte cher.
Ben oui.
Vous aviez parlé de ce plaisir qu'on peut voir à avoir vu mener des chiens, etc. Je sais que la Fédération de chasse fait des opérations en invitant hein, des personnes à suivre telle ou telle partie de chasse. Que vous disent les participants ?
Alors, tous les ans, depuis 5 ans, le fin octobre, hein, on organise l'opération Un dimanche à la chasse, où des non-chasseurs viennent. L'année dernière, il y avait 200 personnes pratiquement qui étaient venues dans différents endroits de la Drôme, puisqu'on a une trentaine d'ACCA qui se sont portés volontaires. On n'a que des retours positifs. Vraiment, mais alors à 100%. Les gens sont particulièrement contents d'avoir passé une matinée à regarder chasser. Alors, il y a différents types de chasse. Il y en a qui vont avec des gens qui chassent à l'arc, puisqu'on a des chasseurs à l'arc. On a des endroits, c'est la chasse féminine, puisqu'on a une association qui s'appelle les Artémises dans le département. Il y en a d'autres, ils vont chasser le petit gibier, lièvre, faisan ou bécasse, et puis d'autres qui vont chasser le sanglier. C'est tous des modes de chasse différents. Les gens, selon les endroits où on se trouve, hein, mais ils le savent au départ, puisqu'ils appellent la CCA locale. Et d'abord, ils prennent contact avec nous, puis après, ils appellent la CCA locale, et ils demandent le type de chasse qu'ils veulent. Et à midi, on les invite évidemment à manger du gibier. Et en règle générale, ça se termine très bien dans l'après-midi, puisque bon, on passe une bonne après-midi à échanger, et c'est très convivial, et ça se passe très bien, quoi.
C'est quel type de profil ?
Il n'y a pas d'âge. Moi, tous les ans, je change d'ACCA parce que je ne veux pas toujours être au même endroit. Ça va de 16 à 60 ans, à 65 ans.
Ouais. Des gens qui se passionneraient peut-être pour la chasse ?
Pas forcément. Beaucoup de dames qui sont curieuses. Qui viennent voir, qui sont curieuses.
Qui savent que le mari y va depuis des décennies.
Pas toujours, parce que quand le mari y va, souvent les avons accompagnés une fois ou deux. Ah. Donc elles connaissent. Non, c'est beaucoup des gens de la ville qui viennent de Valence, Romans, qui viennent de Montélimar, et qui viennent s'informer un petit peu parce qu'ils ont entendu dire, et puis peut-être aussi parce qu'il y a un bon casse-croûte derrière.
Mais voilà, et pas évidemment de détracteurs ou des personnes qui, justement, pourraient avoir l'occasion d'aller vérifier sur le terrain.
Mais je pense qu'ils devraient venir parce qu'ils changeraient peut-être de comportement.
Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne viennent pas. Alors, en tout cas, je peux dire que j'ai fait ce que je pouvais, en tout cas, pour vous poser des questions que tout le monde se pose et qui peut-être pourraient vous déranger, auxquelles vous répondez avec une totale franchise. Donc, est-ce que vous avez envie, là, maintenant, d'une parole un petit peu libre, quelque chose qu'il faudrait dire maintenant, selon vous ?
Non, moi je voudrais simplement dire que la chasse, bon, c'est un loisir indispensable parce qu'il faut gérer la biodiversité, c'est incontestable. D'autre part que nous n'avons rien à cacher. Hein. Alors, tous ceux qui ont des questions à poser, mais qui s'adressent à la Fédération Acré, j'espère que nous aurons de plus en plus de gens qui seront, non, je ne leur demande pas d'être pour, mais qui ne seront pas contre.
Vous avez des éléments de communication aussi, on va terminer avec ceci. Notamment, j'ai devant moi les consignes de sécurité pour chaque partie de chasse quand même. Donc ça doit être distribué à toutes les ACCA. Vous avez aussi différents fascicules. À quoi servent-ils et est-ce qu'on peut les décrire rapidement ? Par exemple, le fascicule de la chasse dans la Drôme.
Alors nous avons voulu informer le public en général, drômois, même touristique, de ce qu'on pouvait chasser dans le département et la manière dont se déroulait une battue. Donc voilà, nous avons créé un petit opuscule qu'on distribue gracieusement dans pas mal de manifestations. Moi, dimanche dernier, j'étais à Châteauneuf-de-Galaure à la fête de l'agriculture. Bon, mais il en est parti, je ne sais pas, 300-400. Les gens, ceux qui s'intéressaient, ils se servaient, ils partaient avec. On a mis en place un sentier pédagogique virtuel au niveau de la Fédé, et ça, vous devriez tous venir le voir parce qu'à aucun moment le mot chasse est prononcé. C'est à télécharger soit à la maison, soit sur place, puisqu'il y a un kiosque de départ de deux sentiers plutôt. C'est sur la propriété fédérale.
Donc ça, c'est sur les traces.
Oui, c'est sur les traces. Cela s'appelle sur les traces du chasseur. Vous le trouvez sur Apple ou sur avec vos smartphones ou iPhone. Vous pouvez le télécharger sans problème.
Et voilà. Puis enfin, il y a quand même cette revue, Le Chasseur Drômois.
Alors ça, c'est une revue qui est plus interne parce que là, elle n'est pas... Si, mis à part que les élus, les grands élus du département, sénateurs, députés, la reçoivent gracieusement et qu'on transmet aux médias parce qu'il me semble que les meilleurs relayeurs d'informations, c'est quand même bien les médias.
D'accord. Interne, ça veut dire elle est aux adhérents des ACCA.
Voilà. Les adhérents sont abonnés, elle est trimestrielle, il y a 4 numéros par an où on relate les informations du moment sur la chasse. Eux-mêmes participent à la rédaction de certains articles. Bon, moi je suis à la rédaction de l'ensemble de l'ouvrage parce qu'on trie. On ne veut pas d'articles polémiques, mais ça, c'est, nos adhérents le savent. Et c'est une information.
Elle a un aspect du coup plutôt technique, vraiment, pour les chasseurs finalement.
Voilà. Technique et à la fois pédagogique, parce qu'on en profite avec cette revue qui touche tout le monde, de faire passer des messages très forts, style la sécurité par exemple.
Jean-Louis Briand, un site internet peut-être pour terminer ?
Alors, je ne le sais pas par cœur.
Bon, ben moi, je vous le lis pour vous. www.chasseur-drome.fr, c'est facile. Vous êtes à Notre-Dame-des-Houlières,
oui,
3132 route des Céterets à Cré. Il me reste à vous remercier pour votre passage et puis ben, vous revenez quand vous voulez.
Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec les journalistes.
Interview. Hey, the bird. Interview. L'interview du jour.